48 FM et le groupe d'action locale Terre de Vie en Lozère vous présentent différents projets aidés par les fonds européens dans le cadre du joli mois de l'Europe.
Tout d'abord, les explications de Monique Delagrange, coordinatrice du groupe d'action locale Terre de Vie en Lozère.
Bonjour. Sur la Lozère, il y a trois GAL, trois groupes d'action locale qui portent un programme leader. Ces GAL ont mobilisé des financements européens et ont pour objet de les redistribuer au territoire. Donc, il y a le GAL Sud-Lozère, il y a le GAL Gévaudan et il y a le GAL Terre de Vie. Et donc, nous, on est le GAL Terre de Vie et on intervient sur le nord-est Lozère. Alors, le leader, c'est liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Je vais vous parler du programme leader de Terre de Vie en Lozère 2014-2020. Ce programme a été mis en place suite à un diagnostic territorial en 2014. C'était un diagnostic territorial partagé avec la population et les élus. Nous avons défini à partir de ce diagnostic une stratégie qui définissait des priorités pour le territoire et nous a permis de mobiliser des financements européens pour atteindre les objectifs que nous avions définis dans notre stratégie. Donc, nous avons trois axes sur lesquels il peut être mobilisé des financements par les porteurs de projets. Un axe qui est sur l'attractivité des villages. Un deuxième axe qui va aller vers tout ce qui concerne le développement économique, touristique. Et enfin, un troisième axe que l'on peut mobiliser sur tout ce qui est développement culturel, structuration sportive et de loisirs. Également de la promotion du territoire et de la promotion sur l'offre du territoire. Ça peut porter aussi sur l'environnement et les services. Nous avons programmé depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, donc avril 2020, à peu près 80 dossiers sur ces trois mesures. Il nous reste encore un an de programmation. En moyenne, c'est 14 000 euros qui sont mobilisés par projet. Ça peut être de la montée en compétences, puisque, par exemple, nous avons aidé le réel dans la professionnalisation des acteurs de l'éducation à l'environnement de notre secteur. Ça peut être aussi l'aménagement de sentiers, mais bon, on peut aussi aller sur la réfection de calades, l'aménagement de camping ou l'acquisition de matériel scénique. Vous voyez, c'est très varié. L'objectif, c'est de rendre attractif le territoire. L'attractivité, c'est le grand thème de notre programme. Et donc, la plupart des dossiers qui rentrent dans cette stratégie définie au moment du diagnostic, hein, je vous rappelle, à ce moment-là, peuvent bénéficier de ces aides. Chaque dossier est analysé. Les dépenses sont vérifiées pour voir si elles sont éligibles par rapport aux fiches projet qui existent depuis 2014. Suite à ça, si c'est cohérent, on soumet à un comité technique ce projet qui donne un avis. L'avis revient au porteur de projet. Le porteur de projet réagit et dans un second temps, un formulaire est réalisé et ce formulaire est envoyé au service instructeur de la région, qui est service instructeur pour les fonds européens, la région Occitanie, pour notre secteur. La région nous donne un retour sur cette instruction, il nous indique si c'est favorable, s'il n'y a pas d'erreur, si tout va bien. Nous soumettons au comité de programmation leader de notre secteur. Le comité de programmation est composé à la fois d'élus et de socioprofessionnels ou d'associatifs. Ils émettent un avis qui peut être favorable ou défavorable. Les dossiers sont notés et donc si le dossier rentre bien dans la stratégie, à ce moment-là, ils seront programmés. Le porteur de projet a 2 ans en moyenne pour réaliser son projet. Ensuite, nous lui demandons de nous communiquer les pièces, les factures, d'autres documents administratifs, afin de pouvoir faire la demande de paiement au service instructeur. Et au bout d'un certain temps, le service de l'ASP, qui est le service payeur de l'État, règle le porteur de projet. Alors, les avantages et les inconvénients de ce programme, c'est le nombre de papiers qui peuvent être demandés au porteur de projet. Le fait que nous, on parle peut-être un peu un jargon et qui n'est pas forcément accessible aux porteurs de projet. Il faut simplifier au maximum, mais difficile de simplifier quand les services instructeurs nous demandent de plus en plus de documents, que les documents évoluent dans le temps. Donc, il faut énormément accompagner le porteur de projet pour qu'il ne se perde pas, pour qu'il ne s'affole pas devant cette masse de papier. Et l'aider au maximum pour pas qu'il ait des problèmes par la suite s'il y a un contrôle des dossiers. Après, les avantages, c'est qu'avec 1 euro national, on appelle les financements nationaux, tout ce qui est des financements d'organismes publics, comme sont les communes, les communautés de communes, la région, le département. Également, il peut exister d'autres organismes publics, mais globalement, c'est ces quatre-là qui sont les plus souvent les financeurs. Et donc, avec 1 euro national, on arrive à mobiliser 4 euros européens. L'inconvénient, je vous dis, c'est peut-être la longueur, le temps qu'il faut pour être payé, c'est la masse de papier et c'est peut-être le jargon que le porteur de projet est obligé d'affronter. Alors, si un porteur de projet est intéressé, ben, il nous contacte, il nous passe un coup de fil, il nous demande si son projet est éligible. La plupart du temps, on lui donne un rendez-vous et puis on voit avec lui si son projet rentre dans la stratégie. On vérifie si les dépenses qu'il perçoit dans son projet, qu'il veut rendre, sont éligibles. Si les dépenses sont éligibles, ben on lui demande de remplir une fiche projet et on présente sa fiche projet en comité technique. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le comité technique est composé essentiellement de socioprofessionnels ou de représentants associatifs qui donnent un avis sur le projet et qui permettent aux porteurs de projet d'enrichir leur projet s'ils peuvent tenir compte des remarques. Après, quel type de porteur de projet ? C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé. Le porteur de projet, ça peut être une collectivité, c'est-à-dire commune, communauté de communes, un EPIC, un syndicat mixte. On a un certain nombre de porteurs de projets privés sur les gîtes. Il y a un certain nombre de personnes qui ont réhabilité des gîtes ou créé des gîtes sur lesquels on a pu intervenir. Ce sont les associations aussi qui sont fortement présentes sur ce programme. Elles ne peuvent pas forcément intervenir sur toutes les mesures, mobiliser les financements sur toutes les mesures. Il y a certaines mesures sur lesquelles on peut mobiliser des financements. Le mieux, c'est de se rencontrer, de faire un point et puis de voir ensemble ce qui est possible de faire ou pas.